Bienvenue à Dialogue Dilettante 2.0. Aujourd'hui, on va parler de René Descartes. Et dans le fond, ça va être une petite introduction aux prochains épisodes qui vont suivre. Aujourd'hui, on va faire un overview, un survol, un aperçu de la vie de Descartes et pourquoi il a été important. Donc, encore une fois, ça va être Justin qui va m'en apprendre un peu plus sur Descartes. Et dans les prochains épisodes, on va aller plus loin, plus en détail sur chacun des aspects que Justin va parler aujourd'hui. Donc, bon épisode et bonne journée.
Avant de commencer, par contre, j'aimerais ça savoir, Elliot, qu'est-ce qui te vient en tête quand on parle de M. Descartes?
Moi, quand on parle de René Descartes, je pense à mon cours de philo au cégep. Puis, je me rappelle de « Je pense, donc je suis ».
Un classique.
Ouais, donc dans le fond, que pour lui, juste le fait qu'il puisse douter prouvait son existence. Il y avait ça. Ensuite, je sais qu'il prenait comme doute, il prenait le doute comme la base du vrai.
Ouais, en quelque sorte. C'est...
Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, il parlait beaucoup de l'âme et de l'esprit. Fait que c'est la dualité, je pense que ça a commencé avec lui.
Ouais, c'est une des figures importantes de ce qu'on appelle le dualisme. Matière-esprit, si on veut, là, que le corps puis l'homme, c'est deux choses différentes qui, ensemble, forment ce qu'est être un humain. Là.
Exact, ouais. Ouais, c'est environ ça. J'imagine que t'en connais plus que moi là-dessus. Mais honnêtement, c'est environ tout. J'ai pas plus de choses. Puis si je me rappelle de... Si je me rappelle de mes livres en philo, il y avait vraiment une de ces tronches.
Ouais, c'est vrai que Descartes, il a jamais marié, il a jamais eu d'enfant. C'est peut-être avoir sa tronche.
Il y a peut-être une
la meilleure explication. Ouais. Super. Ben, c'est un peu ce que je pense que la plupart des gens connaissent de Descartes, du moins de près ou de loin, si on veut. Puis, ce que je trouvais intéressant, ce serait ben, de partir de ça pour expliquer peut-être les nuances rattachées à ça. Donc, par exemple, le « je pense, donc je suis ». Quand on lit son argument, il va énoncer la phrase « je pense, donc je suis », mais la façon qu'il va argumenter, il va plus utiliser un raisonnement du genre « si je n'existais pas » ou « si je n'étais pas, je ne pourrais pas penser ». Donc, c'est un peu comme un argument par contraposé, si on veut, si on...
OK, donc c'est pas exact... La phrase est réelle, mais c'est pas exactement ça, son argument.
Ouais, ben ça, c'est ma lecture de l'argument. Comme okay. Il mise beaucoup sur le fait que si j'existe pas, je peux pas penser, donc je dois exister.
OK.
C'est un peu comme ça.
Fait qu'il y a une nuance un peu plus
poussée. Ouais, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que on va rentrer là-dedans dans l'épisode, mais évidemment, l'argument de Descartes a été beaucoup repris, discuté, commenté par les philosophes après.
Mm-hmm.
Puis... du moins dans certaines lectures que j'ai faites, c'est pas toujours clair que les gens ont compris cette nuance-là quand ils vont dire Descartes dit n'importe quoi.
OK.
Ensuite, tu as dit le doute, qu'il fondait sa doctrine sur le doute.
Ouais, de ce que je me rappelle, là, il prenait le doute comme base du vrai.
Ouais.
Il utilisait le doute comme repère.
Ouais, vraiment. Le doute est certainement au centre de sa pensée. Puis, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu son parcours biographique là-dedans. Puis, une des raisons qu'il s'appuyait sur le doute, c'est parce que quand il est sorti de l'école, jeune homme autour de 18 ans, il s'est dit, ben tout ce que j'ai appris, c'est de la merde. C'était quoi ça? La seule chose qui avait du sens, c'est des maths. Puis, il s'est mis à se poser la question de, OK, comment je pourrais construire une nouvelle philosophie en tenant rien pour acquis. Parce qu'il avait l'impression que les philosophes qu'on appelle scolastiques, qui se basaient beaucoup sur des interprétations d'Aristote, justement, ils utilisaient, à son sens, beaucoup des espèces d'arguments d'autorité, de comme « Ah, un ancien philosophe dans l'Antiquité a dit ci, un ancien philosophe a dit ça. » Puis Descartes était comme « So what? »
OK, fait qu'il y a eu un bon repensement, là, disons, de l'épistémologie ou de comment on bâtit le savoir.
Ouais, vraiment. Puis c'est une des raisons pourquoi on en parle encore aujourd'hui, c'est que Descartes a vraiment révolutionné l'épistémologie. Ce qui a, selon plusieurs, permis éventuellement à des épistémologies plus appropriées pour faire de la science.
Okay.
On peut s'émerger.
Okay. Puis l'affaire de la dualité de l'âme, de l'esprit, c'est-tu vrai ça ou c'est juste...
Ouais, ça c'est entièrement vrai, c'est au centre de sa doctrine aussi. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'à l'époque, un penseur avait une pensée très unifiée et essayait d'expliquer la totalité des phénomènes connus scientifiquement et philosophiquement, si on veut.
Ouais.
Donc tout ça, c'est très interrelié, puis c'est un peu ça qui peut être déroutant quand on essaie d'approcher un penseur comme Descartes, de se replonger dans l'époque, se replonger dans l'espèce d'interconnexion entre toutes ces idées. Mais oui, la dualité de l'âme et l'esprit, c'est au centre de ça. Puis, il y a eu... ça, c'est une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Quand il a publié un de ses textes qui s'appelle « Les méditations métaphysiques », il a demandé après ça à ce que ses manuscrits soient répandu partout en Europe chez les grands penseurs, puis que les gens qui avaient des objections lui fassent parvenir les objections. Lui, il va leur écrire des réponses, puis à la fin du livre, il va avoir une section objections et réponses.
Okay.
Puis c'est ce qu'il a fait. Donc, Descartes avait accès à...
Attends, mais dans le fond,
ouais.
Il a publié un livre, il a demandé...
Il n'était pas encore publié.
Non, c'est ça, mais
il a envoyé ses écrits... avant de publication, il les a envoyés comme...
Il a envoyé son brouillon, disons,
ouais,
aux gens, et il a inclus, au lieu, admettons, de modifier son écrit au complet, il a inclus la portion objection et réponse à la fin, comme en annexe.
Exactement.
C'est quand même intéressant comme...
Ouais,
exact. Ça va bien avec sa culture du doute, j'imagine, puis peut-être
c'est ça.
Recherche...
Puis aussi, comme il faut comprendre que étant nouveau... dans le monde, étant nouveau dans le sens... ayant une nouvelle pensée, ça lui attirait des problèmes pour des raisons politiques puis des choses comme ça en Europe. Okay. Puis c'était une de ses façons, je pense, aussi de se dédouaner, de dire comme, regarde, je sais que ce que je vais dire va peut-être froisser des théologiens, mais je suis ouvert à la discussion, puis je suis un fervent croyant, puis Dieu est au centre de sa pensée, puis...
Okay. Mais je t'ai coupé dans ton anecdote,
oui,
excuse-moi.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Exact, donc, une des personnes qui a participé à cette série d'objections et réponses, c'est le célèbre Thomas Hobbes, qui lui était un matérialiste pur et dur, britannique. Si je ne me trompe pas, il était athée, du moins peut-être pas ouvertement, mais sa philosophie, elle était athée. Puis Thomas Hobbes lui écrit, tu sais, en bon matérialiste, il est comme « C'est quoi ces histoires-là avec l'âme? De quoi tu parles? Je ne suis pas sûr de te suivre. »
Puis, Hobbes, c'était un matérialiste, fait que l'affaire d'âme...
Pour lui, c'est ça. Tout ça, tout est de la matière, okay. Puis il n'y a pas de,
okay.
de d'âme à proprement parler. Mais dans les objections-réponses, où est-ce que je voulais en venir, c'est que Hobbes lui pose des questions, puis il dit comme, tu sais, c'est quoi ça? Tu dis ce mot-là, de quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Puis éventuellement, Descartes comme devient un peu salty. Il dit... je ne me souviens plus exactement de la phrase, puis je ne l'ai pas devant moi, mais il dit quelque chose du genre « Écoute, si j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, puis si à ce point-ci, comme le philosophe ne peut pas comprendre, comme ça ne sert à rien que j'ennuie le lecteur, puis que je répète mes définitions, puis genre, il ne pourra jamais rien comprendre, ce philosophe, puis genre, point. » Puis là, comme...
Puis il a laissé ça dans le livre.
Ouais, c'est dans le livre. Là,
on, wow! Comme, OK, fait qu'il y avait quand même une attitude...
Ouais, ben je pense que c'était très... En fait, c'est... Hobbes aussi, il y a une espèce de... il y a vraiment une mécompréhension mutuelle. Comme je pense que c'est les deux, ils sont un peu comme... De quoi qu'il parle, ce gars-là, je suis un peu confus. Puis je pense que ça devenait lassant d'essayer de s'expliquer quand les deux, on se parle à travers notre chapeau. Puis
ouais.
ça transparaît dans les écrits de Descartes, mais je trouvais ça drôle. Puis il y avait une autre anecdote liée à la dualité que je trouve intéressante, que j'aimerais qu'on aborde plus en détail dans l'épisode, mais il y a eu une correspondance célèbre, là ici je parle de Descartes, avec une petite, une famille royale si on veut, donc il y avait, c'était Élisabeth de Suède. Enfin, non, c'est Élisabeth de Bohême. Excuse-moi, il y a Christine de Suède qui est une autre correspondante célèbre. Donc, avec Élisabeth de Bohême, elle a lu ses écrits. Elle est très jeune. Je pense qu'elle a comme 20 ans. Puis, elle lui pose des questions. « Peux-tu m'expliquer la dualité? » En fait, elle lui pose une question, puis elle lui dit « Si notre corps est de la matière, mais notre âme ne l'est pas. Comment que notre âme affecte notre corps? Parce que selon ta doctrine physique, il y a juste la matière qui peut interagir avec la matière. Donc, comment est-ce que notre pensée, si on veut, nos pensées peuvent agir sur notre corps? Comment est-ce qu'on peut avoir une volonté de faire des mouvements, des choses comme ça? Puis Descartes n'est pas vraiment capable de répondre. T'sais. Il dit, c'est un peu, lui, il avoue lui-même, c'est un peu un mystère. Il essaie de comme expliquer un peu par la bande, mais il n'y arrive pas. Puis certains philosophes, un en particulier, qui est un philosophe aujourd'hui connu pour ses théories sur la conscience, va dire que cet argument d'Élisabeth de Bohême, c'est le premier argument physicaliste de la conscience. C'est,
oh.
Si on a une conscience qui n'est pas de la matière, alors comment est-ce qu'elle interagit?
Merci d'écouter Dialogue Dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Et donc, dans cette correspondance-là, avec cette Élisabeth de Bohême,
ouais.
Ça serait le premier argument physicaliste qu'on aurait vu écrit ou qu'on a gardé mémoire de.
C'est ça, selon la littérature. Exact, selon un philosophe qui s'appelle Jagwan Kim, qui est très connu pour ses théories sur la conscience.
Mais, OK. Fait que là, mettons, là, on a. Je pense que on a fait un survol, mettons, de ce que moi je connaissais, puis toi, t'en connais pas mal plus sur Descartes, mais. J'imagine qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi Descartes, ou une raison pourquoi tu trouves ça important d'en parler.
Ouais.
Tu sais, toi, s'il y avait des choses que je connais pas sur Descartes, puis que sur lesquelles je devais savoir.
Mm-hmm.
Parce que là, juste pour le podcast, le bien du podcast, c'est une introduction à l'épisode qu'on va faire sur Descartes.
Ouais.
On va en parler pas mal plus grandement, il va y avoir des sections et tout.
Mm-hmm.
Mais moi, je m'y connais pas sur Descartes. Mm-hmm. Je connais juste ce que j'ai dit tantôt. Fait que si tu avais des bullet points ou genre juste.
Mm-hmm.
Faire une espèce d'introduction de qu'est-ce qui est important dans la vie de Descartes.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux me dire de plus là-dessus?
Ouais. Ben, déjà, tout ce qu'on a déjà dit, la raison que tu le connais, c'est parce que ça a été assez important pour qu'on le voit, par exemple, au cégep, dans les cours de philo, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une base, ces théories de la dualité de l'âme, tout ça, c'est très, très important. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont un peu moins connus. Par exemple, son influence sur la notation en mathématiques. Donc, moi, je suis un mathématicien. Non seulement Descartes, ses mathématiques, il a fait des découvertes importantes en géométrie. Il a aidé à inventer la géométrie analytique. Donc, ça, on va en rentrer en détail. Le plan cartésien, on garde encore le nom de Descartes quand on dit que le plan, il est cartésien.
Ouais, ça vient de là.
Exact. Ça, c'est lui... un des inventeurs du plan cartésien. Bon, c'est comme toute bonne invention.
Il y avait plusieurs personnes dans l'eau.
Oui, plusieurs personnes qui faisaient la même chose en même temps. Mais outre ça, juste la façon qu'il notait ses réflexions mathématiques. Donc, par exemple, c'était le premier à dire les chiffres connus, on va les noter avec des lettres qui commencent au début de l'alphabet. Et les inconnus, on va prendre X, Y, Z. Okay? Comme ce qu'on fait encore aujourd'hui, quand on a des variables inconnues, c'est naturel pour nous de prendre X, Y, Z.
Ouais.
Descartes, c'était le premier à faire ça.
Attends, fait que c'est le premier à avoir rajouté des variables X, Y, Z?
À utiliser ces lettres-là de façon constante.
Mais avant, on utilisait quoi?
En fait, ça, c'est un autre point qui est un peu difficile à élaborer. Mais
en gros, là, ça rentre dans tous les détails. C'est le premier à utiliser les lettres qu'aujourd'hui, on utilise toujours en algèbre.
Exact.
Il était le fondateur de l'utilisation de ces lettres précises.
Exactement. Okay. Puis on va rentrer dans ces détails-là, mais son approche de poser des variables inconnues dans les équations pour les résoudre, c'était pas entièrement nouveau, mais... il l'a exploité d'une façon qui n'avait jamais été exploitée encore.
OK.
Puis c'est ça qui a permis de faire le pont entre la géométrie puis l'algèbre. Donc, de résoudre des problèmes de géométrie en trouvant la valeur de X dans une équation, par exemple.
Wow.
Donc, ça, c'est ce qu'on apprend au secondaire. Mais ça, c'était révolutionnaire à l'époque parce qu'avant ça, on faisait la géométrie purement euclidienne où est-ce qu'il n'y a pas de mesure de longueur, il n'y a pas de variable, c'est juste... je prends des côtés avec des compas, puis des règles, puis je trace, puis je fais des théorèmes comme
ça. Puis ça, on l'apprend presque plus, là, cette méthode-là, aujourd'hui.
Non, c'est ça. C'est trop faible, résoudre des problèmes géométriques sans utiliser l'algèbre puis le plan cartésien.
Ouais, aujourd'hui, ça semble fou de faire de la géométrie sans... Ben pas, ça semble fou, là, ouais. Mais ça...
Ben c'est comme si... Tu sais, je te dis, plutôt que prendre ma voiture, je vais prendre comme un carrosse puis un cheval. Là,
ouais, ouais.
Même, okay. Pourquoi tu ferais ça? on a beaucoup mieux maintenant. C'est vraiment à ce point-là, la force de sa technique est à ce point-là importante.
OK. Cool.
Quoi d'autre? Il y a aussi peu, on se souvient peu, mais il a été important en physique. Bon, ça, on s'en souvient dans certains cercles, là, que comme...
En physique?
Ouais. Donc, ouais. Il a fait des contributions en physique. Juste sa vision matérialiste, ben mécaniste, si on veut, du monde. C'était pas le seul, là, c'était un peu partout en Europe, mais il a vraiment beaucoup réfléchi à comment une philosophie mécaniste pourrait... donner lieu à des théories physiques.
Okay.
Puis par exemple, Newton, quand il était adolescent, a étudié Descartes en long et en large, puis il dit « Ah, dans sa théorie mécaniste, ça semble accroché ici, puis ça a beaucoup stimulé les idées de Newton, qui, on sait, a éventuellement créé la mécanique classique là, qu'on utilise encore à ce jour. »
OK, parfait.
Puis sinon, il y a aussi... fait des contributions en médecine, si on veut, ou en biologie. On s'en souvient très peu, mais il a écrit un traité qui s'appelle « Le traité de l'homme », qui a été très important. Il a fait beaucoup d'expériences, des dissections, des trucs comme ça, pour okay. Explorer des corps animaux, pour fonder sa théorie. Puis on va voir que c'est un petit peu vieux jeu, mais c'est quand même... important pour l'époque, il va dire que notre cerveau envoie des esprits animaux dans nos nerfs pour contrôler nos mouvements, par exemple. Donc aujourd'hui, on sait que c'est des flux électriques, mais à l'époque, on n'a aucune théorie de l'électricité, on ne comprend pas ce phénomène-là. Mais
ouais.
Descartes, pour que le corps puisse fonctionner d'un point de vue mécanique, il comprend qu'il doit y avoir quelque chose qui se transmet du cerveau jusque dans les muscles. Wow. Puis lui, il va appeler ça les esprits animaux. Puis quand j'ai lu le traité, tu vois que comme il est pas vraiment capable d'expliquer c'est quoi. Il dit c'est un vent subtil. Puis il y a d'autres théories, d'autres idées un peu folles, mais qui sont folles parce que aujourd'hui on en connaît beaucoup plus. Mais par exemple, il va dire pour que notre corps fonctionne, il a besoin d'énergie. Mais lui, il va appeler ça de la chaleur. Puis il va dire d'où vient la chaleur. Ben il va dire dans notre cœur, il y a un feu. Littéralement un feu qui brûle en permanence. Puis c'est pour ça que comme notre sang, quand il passe dans notre cœur, il se fait oxygéner. Il se fait... Il se fait comme donner du chaud, genre. Il se fait donner de la chaleur.
Ben, on dirait qu'il... je l'ai pas lu, là, mais tu sais, c'est comme... Il comprenait un peu le système. Il a peut-être fait des avancements sur la connaissance du système ou comme la compréhension de certains trucs, mais... Mm-hmm.
Ouais.
Le ground,
non,
la manière qu'il explique est peut-être pas la...
C'est ça. Comme la circulation du sang était déjà connue. Ouais. C'est pas lui, c'était... Lui, Descartes, il adhérait à la théorie de la circulation du sang, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Beaucoup disaient que ça n'avait pas de sens.
C'est fou quand même qu'à cette époque-là, on savait même pas où on en doutait qu'il y ait une circulation du sang.
Ouais.
J'aurais cru qu'on aurait su bien avant. Il est né en quelle époque?
Descartes, il est né au 16e siècle.
16e siècle.
Fait que c'est...
Okay. Quand même.
C'est, mais c'est au 16e siècle.
Qu'on aurait su ça dans les temps des Grecs.
Ben, peut-être que les Grecs le savaient.
Okay.
Mais comme beaucoup de trucs, on les redécouvre dans le monde moderne. Mais je connais pas les détails sur la théorie de la circulation du sang.
Je spécifie, je voulais parler de la Grèce antique parce que les Grecs existent toujours. Désolé pour...
Oui, on s'entend là-dessus. Okay. Mais ouais, ce traité-là, il est assez comique quand tu le lis parce que c'est tellement daté, mais en même temps, il y a une parcelle de génie quand même dans ces traités anatomiques. Ben, c'est pas de l'anatomie, là, mais...
Fait que là, il a été important en médecine, en mathématiques, en philosophie, puis dans chacun de ces aspects-là, il est important pour plus d'une affaire.
Ouais, ouais.
Fait qu'au final... Mais c'est quand même fou parce que moi, de ce que je me rappelle de Descartes, c'est juste dans mon cours de philo.
Ouais.
Fait que c'est quand même intéressant d'aller voir tout ce que...
C'est ça. Puis ça, c'est... peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus, mais dans les sciences naturelles, c'est rare qu'on étudie les vieilles théories qui ne marchent plus.
Ben, ouais.
Tu sais, quand on fait de la physique, OK, on va étudier Newton parce que ça marche encore puis c'est utile, mais on va pas aller lire les textes de Newton. On va lire des textes modernes où est-ce qu'on réexplique Newton dans un contexte plus approprié.
Ouais.
Donc, tandis qu'en philo, aller lire Aristote, qui date d'il y a 2000 ans, c'est encore pertinent parce que c'est pas le même genre d'évolution conceptuelle. Tandis que dans les sciences naturelles, ça sert presque à... Tu sais, même aller lire Einstein, tu fais ouais. pas ça dans un bac en physique. Tu vas juste apprendre la théorie d'Einstein.
Ouais. On est moins attardé à l'histoire de la science dans ces domaines particuliers-là, parce que j'imagine que ça avance très vite. Puis en même temps, puisque c'est basé sur des données... c'est plus basé sur des données, mettons, factuelles que de la théorie qu'on sait pas trop. Là.
Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que l'évolution conceptuelle en sciences de la nature va souvent demander de rejeter des anciens concepts.
Ouais.
Okay. Puis là, ce qui arrive, c'est quand tu essaies de lire, par exemple, tu essaies de lire Newton à son époque, il va plein de concepts qui sont vraiment ambigus, puis que ça l'a pris peut-être un siècle ou deux siècles pour éclaircir c'est quoi, comment on peut donner une définition mathématique, puis tout ça. Alors, quand tu lis Newton ou même Descartes ou n'importe qui, c'est un grand travail de, premièrement, juste comprendre c'est quoi son vocabulaire, de quoi il parle, tout ça. Fait que c'est un peu normal, je pense, qu'on ne s'attarde pas à ça parce que c'est...
Okay.
Éventuellement, il faut apprendre, faire les calculs, puis passer à autre chose.
Ouais, absolument. Parfait. Ben, est-ce que tu avais une dernière chose à dire avant qu'on...
Peut-être dernière anecdote que je trouvais drôle. Descartes était connu pour... passait beaucoup de temps dans son lit. Donc, le matin, il restait dans son lit jusqu'à midi, disons, là, puis il réfléchissait à ses problèmes, couché.
Mais par paresse ou par obligation?
Non, juste parce... En fait, quand il était jeune, il a pris cette habitude-là parce qu'il était souvent malade.
OK.
Puis...
c'était un lève-tard, mais productif dans son lit quand même.
On le pense.
OK, ben c'est cool. Ben pour le monde qui écoute, nous, on va faire d'autres épisodes sur les points qu'on a discutés en ce moment, je pense.
Ouais.
Mm-hmm. Puis, restez là, c'est seulement l'introduction. Puis, dans les prochains épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines, on va rentrer plus en détail dans les aspects qu'on a discutés. Et donc, merci d'être là. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de nous lâcher un like sur YouTube, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des commentaires, de nous parler si vous voulez. Merci. Bonne fin de journée.
Merci.